Podshake.
Crise hospitalière, fermeture de lits, manque de personnel. Voici ce qu'on entend de nos jours quand on parle du système de santé. Mais aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur le quotidien soignant et ce qu'il se passe entre nos murs. Des débuts à l'hôpital aux premières désillusions, la quête de cette juste distance et le rapport que l'on a à la mort. Sans oublier cette fameuse vocation soignante dont on parle tant. Alors, à quoi ressemble vraiment le quotidien des soignants? Je m'appelle Laura Boujna et vous écoutez Paroles de Blouse, un podcast produit par MedCheck Studio et écrit par Emma Vuagnou, infirmière en réanimation. Épisode 2. Hier, j'ai quitté le service en sachant qu'après mes quelques jours de congé, je ne retrouverais pas ce patient, que j'accompagnais depuis presque 2 semaines. Et si je dois vous avouer quelque chose, c'est que mon cœur s'est serré à l'idée qu'il allait partir dans les heures qui suivraient mon départ, alors que je gardais encore espoir qu'il se réveille un jour.
Acceptez que ce soit fini.
La mort, c'est l'un des premiers sujets qu'on aborde quand on choisit ce genre de carrière. Comment l'appréhender? À quoi ça ressemble? Comment réagir? À force de m'y confronter, j'ai compris que mon rapport à la mort était dépendant du patient que j'accompagnais, mais surtout du contexte dans lequel elle s'invitait. En fonction des situations que l'on rencontre, on accueille la mort différemment. L'âge, le mode de vie, le contexte et l'état de santé, autant de facteurs qui interviennent dans ce processus. Par exemple, j'ai moins de difficultés à accompagner des gens en fin de vie que des patients jeunes qui meurent de façon brutale. La qualité de vie de ces personnes est souvent altérée et on sait que leur vie en dehors de l'hôpital serait difficile pour eux, sûrement synonyme de souffrance. Mais là, ce n'était pas vraiment une situation comme ça et donc j'ai eu un peu plus de peine que d'habitude à laisser partir cet homme. Je travaille en service de réanimation et il y a 3 semaines, on a accueilli un homme de 80 ans qui a eu un accident domestique. Le genre d'accident qui peut arriver à tout le monde et à n'importe quel âge. Cet homme était veuf et vivait seul dans sa grande maison. Pourtant, il était loin d'être isolé. 5 enfants, 3 fois plus de petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Ça, je le sais parce que c'est sa fille qui me l'a dit lorsqu'elle est venue lui rendre visite. Mais aussi parce que les murs de sa chambre étaient tapissés d'une dizaine de dessins d'enfants et de photos réunissant cette famille heureuse et unie autour de ce patriarche. C'était un homme autonome qui faisait son jardin et trouvait du réconfort dans la nature. Une vie que l'on pourrait souhaiter à toute personne de cet âge. Sauf que les soins de réanimation sont lourds et bien qu'il n'ait aucun antécédent significatif, son corps avait 80 ans lui aussi. C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte à quel point l'état de santé initial des patients, mais aussi leur âge, influence grandement sur la suite des événements.
Ce patient s'est rapidement dégradé sur le plan respiratoire. C'est pourquoi les médecins ont pris la décision de le mettre dans le coma artificiel et de l'intuber afin de préserver son organisme en le reliant à une machine lui permettant de respirer. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe de soins l'a mis en décubitus ventral, c'est-à-dire sur le ventre, et a rajouté du monoxyde d'azote. Ces techniques permettent d'augmenter le recrutement alvéolaire dans les parties dorsales des poumons dans les cas des patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë et sévère. Peut-être avez-vous entendu parler de ces techniques lors des pandémies de Covid, par exemple. Ces dernières ont fait leurs preuves et permettent une amélioration significative des fonctions respiratoires des patients. À la suite de ça, cet homme a développé une pneumopathie multiple, c'est-à-dire une infection pulmonaire à plusieurs germes qui, malgré les différents traitements, ne s'amélioraient pas. À côté de ça, le reste des organes tenait la route, ce qui était même surprenant pour un homme de cet âge.
Vaillant. C'est le qualificatif qu'on lui a rapidement donné. Alors, tous les moyens ont été déployés pour donner à cet homme toutes les chances de sortir d'ici. Sa qualité de vie antérieure et sa robustesse nous ont permis d'appuyer la décision d'aller jusqu'au bout de ce qui était possible de faire, tout en respectant les volontés transmises par sa fille, désignée comme personne de confiance. La seule chose qu'il refusait, mettre en place une dialyse si les reins venaient à lâcher. J'ai connu cet homme sur le ventre, sur le dos, puis avec de moins en moins de machines dans la réanimation. J'ai vu l'introduction de plusieurs lignes d'antibiotiques, d'antiviraux aussi. J'ai connu les jours d'amélioration qui ont fait penser qu'un jour on pourrait le réveiller.
Mais la vie en a décidé autrement. Les organes qui, jusqu'à présent, compensaient la défaillance respiratoire, commençaient à lâcher eux aussi. Au départ, l'équipe se laissait encore quelques jours, histoire que la ligne d'antibiotiques soit terminée. Finalement, en quelques heures, les plans ont changé. Dans ces services accueillant des patients à l'état de santé précaire et instable, la vérité de samedi n'est plus d'actualité le lundi.
Je me souviens avoir accueilli avec le médecin ses enfants sur le week-end, en leur disant que c'était mieux qu'il y a 2 semaines. Pour finalement les rappeler 3 jours plus tard en leur demandant de venir le plus rapidement possible car c'était fini. C'est sûrement ce que je trouve le plus dur dans mon métier. Me rendre compte que parfois, il existe de faux espoirs. Tout est allé très vite. En l'espace d'une matinée, je suis passée du
« on se laisse quelques jours avant de statuer »
à
« on arrête tout et on attend la famille ».
Tout en espérant qu'ils tiennent le coup. Les journées devenaient des heures et tout se déroulait désormais d'une nouvelle dimension où le temps s'accélérait et jouait contre nous. Parfois, les patients viennent de loin, très loin. En l'occurrence, ce monsieur n'était pas de la région, et sa famille non plus. Alors l'urgence prenait une toute autre mesure. Et le défi était de s'assurer que cet homme puisse être encore présent quand sa famille arrivera dans le service. Ce n'est jamais simple de décider quand est-ce qu'on arrête, parce que on a toujours espoir que ça s'améliore un jour, que cet homme tienne encore le coup et passe ce cap. Ce matin-là, on espérait qu'il avait encore assez de force pour attendre qu'on lui tienne la main avant de partir. J'ai l'impression qu'en 2 ans de carrière, même si 2 ans ce n'est rien, c'est la première fois que je me sentais vraiment dépourvue face à la fin de vie d'un patient pour lequel j'avais espoir. J'avais vraiment envie qu'on le réveille, qu'il sorte d'ici sur ses 2 jambes et qu'il retrouve ses proches. J'avais envie, mais surtout j'y croyais. Avec du recul, je ne sais pas quel sentiment nourrissait l'autre, mais j'avais la sensation que c'était jouable, qu'il y avait encore une solution. Alors, décider d'arrêter, c'était prendre conscience des limites du soin dans des situations où l'on a espoir de sauver les gens. Pour le coup, j'avais du mal à l'accepter. Et puis, on va pas se mentir, cela faisait 2 semaines que je m'occupais de lui. Sur 2 semaines, j'ai dû travailler 10 jours. 10 jours pendant lesquels j'ai passé 8 heures à m'occuper à 100% de cet homme. Un inconnu dont je connaissais tout le dossier. J'ai eu sa famille au téléphone, j'ai rassuré sa fille. On m'a parlé de sa vie, de ses habitudes. J'ai mis le téléphone à son oreille plusieurs fois pour qu'il entende ses petits-enfants. J'ai vu des larmes sur son visage et ses yeux se sont ouverts quelquefois, dévoilant un bleu qui m'était trop familier pour me laisser insensible. On était fiers avec mon binôme de le voir respirer avec l'aide de la machine, mais aussi de sentir ses mains se serrer à nos ordres. Alors, me dire que ce matin-là, on décidait d'arrêter les soins m'a mise en colère, car ça nous montrait une fois de plus que l'on n'était pas les seuls décisionnaires dans ces questions de vie ou de mort. Pendant que j'éteignais les seringues qui ne serviraient plus, j'ai fait le douloureux constat que cet homme, je l'avais vu plus que mes parents sur les deux derniers mois. Mais surtout, que cette observation pouvait aussi se faire dans l'autre sens. Dans un des moments les plus difficiles de sa vie et de celle de ses proches, il était loin des siens. J'avais l'impression que c'était aussi la première fois que je prenais conscience de cela. Je savais que je ne reverrais pas ce monsieur. Cette pensée, je l'ai déjà eue plein de fois sur des accompagnements de fin de vie. Mais à chaque fois, c'était différent. Parce que là, ce sont nos médicaments qui le maintiennent en vie. C'était le respirateur, la noradrénaline. Ce sont ces choses-là qui faisaient qu'il restait avec nous. Et je sais que quand on décidera de les arrêter un par un, il partira. Ce sera doux, tranquille, je le sais. Car il dort déjà profondément. Mais j'ai la sensation qu'on a plus la main sur ses fins de vie que dans des secteurs où l'on apaise les patients par la sédation et que ce sont eux qui prennent la décision de partir. Je trouve les questions de fin de vie et d'accompagnement toujours difficiles à appréhender. Parce que favoriser le confort du patient, c'est souvent en faire moins. Surtout dans ces services très techniques. On ne fait plus de piqûres, on arrête de surveiller les paramètres vitaux, la glycémie, on ne fait plus de pansements ni d'anticoagulants. Sauf que ces soins, c'est presque la majorité de ceux que j'administre au quotidien. Des soins qui visent à mesurer, à diagnostiquer, prévenir, guérir, puis soulager. Maintenant, on arrive à ce moment-là de la prise en soin où on se questionne sur ce qui est encore utile, sur ce qui fait du bien. Vraiment. On se pose cette question. Qu'est-ce qui, dans mon travail, procure vraiment un sentiment de confort à mon patient ? Finalement, rien de ce que je faisais jusqu'à présent, ou du moins, pas grand-chose. Passer un gant sur le visage, masser les mains, mettre de la musique, c'est un changement de perspective. On a la sensation d'être impuissant, mais aussi de ne plus être vraiment utile. Désormais, je m'assurais seulement que le patient ne grimace pas, soit confortable pour respirer, et maintienne sa tension jusqu'à ce que sa famille arrive. J'arrive à trouver une certaine paix dans le fait de laisser partir certains patients quand je sais qu'ils souffrent et que leur vie, en sortant d'ici, serait plus difficile qu'elle n'était avant. Je pense à des gens très dépendants, ceux qui ont perdu toute faculté de penser par eux-mêmes et d'exprimer leur volonté de façon irréversible. Des gens qui perdent leur dignité dans la maladie au point que cela en devienne insoutenable, ou ceux qui voient en la mort une forme de libération d'une vie devenue trop douloureuse et condamnée à la souffrance. Mais quand la vie offre encore de belles choses et qu'elle nous porte au quotidien, difficile d'accepter que la mort s'y invite. Je suis soulagée de ne pas être là quand il partira. Parce que ce n'est pas facile d'accompagner certaines personnes jusqu'au bout. Surtout quand on a partagé une grande partie de leur chemin. J'espère que quand je reviendrai, la chambre sera déjà occupée par quelqu'un d'autre. Histoire de ne pas laisser trop de place à cette tristesse. J'ai conscience que des situations comme ça, il y en aura d'autres dans ma vie de soignant. Et que ce ne sera jamais simple. Je pense que même après 10, 20, 30 ans de carrière, on ne s'y habitue pas. Et heureusement. Car si s'y habituer, c'est ne plus ressentir de peine, alors j'aurais perdu ce pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. Mon humanité. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Sans oublier de nous couvrir d'étoiles. Pour d'autres podcasts autour de la santé, rendez-vous sur medcheckstudio.com. Prenez soin de vous et à bientôt.